Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Axel Gourmelin. Il est militant insoumis, il est également co-animateur du groupe d'action du pays de Paimpol. Il est avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane Lamont et bonjour à toutes et tous.
Alors on va parler ce matin de plusieurs choses. J'avais envie de commencer par cette polémique qui a été initiée par la publication d'un tweet de la députée Marie Mesmer, députée de la France Insoumise, suite aux événements d'Amsterdam et de ces affrontements entre supporters, affrontements qui ont quand même tourné à l'attaque antisémite. Est-ce que c'était, selon vous, utile de tweeter, utile surtout de le faire à ce moment-là? Est-ce qu'elle a eu raison, finalement, Marie Mesmer, ou pas?
Alors, moi, déjà, j'invite tous ceux qui m'écoutent à aller voir le communiqué qu'elle a publié, dans lequel elle s'exprimait. Elle a subi un harcèlement qui a été à l'initiative de l'extrême droite. Elle a même, qui a même été poursuivie par Bruno Retailleau, qui a alimenté la polémique. Marie Mesmer, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'accepte pas qu'il y ait l'indignation à géométrie variable. Et nous, notre position a toujours été constante depuis le début. Nous n'acceptons aucune violence d'où qu'elle vienne. Et donc, voici notre position. Et ça poursuit une polémique, des accusations d'antisémitisme, qui sont des accusations politiques, qui visent à allier la critique de ce que fait l'État d'Israël en disant que ça serait... Ce que fait l'État d'Israël à Gaza, qui est un génocide, en faisant passer ça pour de l'antisémitisme. Il n'y a pas un seul antisémite à la France insoumise. Nous n'avons jamais été condamnés pour cela. Nous sommes universalistes et nous ne trions pas les gens en fonction de leur religion. Et notre projet est fondamentalement un projet d'unification du peuple français.
Alors avec quand même des images assez violentes, on a vu ces alors je sais pas si on peut les qualifier de supporters ou pas, ça reste à définir, mais en tout cas ces attaques violentes qui ont été perpétrées contre des juifs, est-ce que finalement ça va trop loin cette histoire? Est-ce qu'il y a un moment il va falloir qu'il y ait, enfin en tout cas que la paix s'installe et qu'il y ait une grande discussion entre les peuples? Alors je sais que parler d'universalisme, c'est pas toujours simple, c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça, mais est-ce qu'il y a un moment, il va falloir s'arrêter avant que la haine gagne du terrain, finalement?
Non mais, on est d'accord, tant qu'on réglera pas le problème à la base et qu'on ne permettra pas aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre en paix côte à côte, il y aura toujours des problèmes comme ça. Ce qui s'est passé à Amsterdam, il y a eu à la base des provocations du côté des supporters du Maccabi Haïfa. C'est malheureusement un phénomène qu'on rencontre assez souvent, des supporters violents, et il faut condamner, on ne peut pas accepter qu'il y ait de la violence des deux côtés. Mais je le répète, tant qu'on réglera pas le problème à la base, qui est que les Palestiniens doivent pouvoir avoir un État et vivre en paix, il y aura toujours des débordements.
Alors, c'est difficile. On l'a vu même vis-à-vis de la France. Hein. On a eu cet incident de policiers français qui ont été arrêtés par des policiers israéliens sur une possession française, finalement, à Jérusalem, en marge de la visite du ministre des Affaires étrangères. On a l'impression que on a une géopolitique, on a des choses qui sont en train de changer très vite, très vivement parfois. La France arrive-t-elle encore à se faire entendre sur ce terrain très, permettez-moi le terme, il est peut-être mal choisi, mais miné du Proche-Orient?
Ces événements, je trouve qu'ils n'ont pas été assez repris quand même. On parle bien de possession française, de policiers israéliens qui ont arrêté des gendarmes qui étaient venus faire la sécurité d'un ministre. Et la question, surtout avec l'élection de Donald Trump actuellement, il faut que la France puisse s'exprimer de façon indépendante. La France doit être non alignée. Elle peut pas être alignée sur un des empires, et elle doit pouvoir porter un message de paix. Et pour pouvoir se faire entendre, elle doit pouvoir être indépendante.
Elle n'est pas indépendante, selon vous? La parole de la France n'est pas assez indépendante?
Non, bien sûr. Quand on fait partie de l'OTAN, on est forcément aligné sur la politique des États-Unis.
Alors avec peut-être justement à propos de l'OTAN, en tout cas des modifications à venir, puisque Donald Trump, vous me donnez une transition, tout trouvé, a été élu, en tout cas il a été élu, il n'est pas encore 47e président des États-Unis, il faudra attendre le mois de janvier pour son investiture. Néanmoins on a l'impression d'un Donald Trump qui veut aller très vite et qui déjà prend des dispositions. Donald Trump qui aussi a un petit peu intimé l'ordre à l'Europe de se débrouiller toute seule en matière de défense. Et ça nous amène à l'OTAN. Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe, pour la France, que Donald Trump nous lâche, si vous me permettez le terme?
Ouais, j'attends de voir ce que va faire Donald Trump. Il nous promet de régler tous les conflits, il nous promet beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr de pouvoir juger avant qu'il le fasse, ce que dit Donald Trump, parce qu'il vit dans un autre monde, dans un air de post-vérité. On a vu une campagne de fake news. On a vu aussi, enfin, il y a plusieurs leçons à tirer. Je ne sais pas si je peux tirer maintenant les leçons de cette élection aux États-Unis. La première leçon, c'est quand même que les sondages nous ont dit que l'élection serait serrée. Au final, Donald Trump a remporté les 7 swing states, qui sont les États qui basculent généralement d'une élection sur l'autre entre démocrates et républicains. Donc, il a fait une élection large. Et donc, là, il a eu une élection large. Et donc, la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que quand, comme aux États-Unis, les deux candidats disent la même chose et qu'au final, c'est un casting de personnes qui se joue et non un combat de programme, c'est l'extrême droite qui finit par l'emporter. Et on peut retirer cette leçon aussi en France. Si jamais il n'y a pas un programme de l'autre côté pour répondre aux attentes populaires, c'est l'extrême droite qui finira par l'emporter.
J'allais justement vous poser la question, Axel Gourmelin. On a quand même, comme aux États-Unis, une société très fracturée, les préoccupations sont peut-être légèrement différentes, mais finalement, on a cette société fracturée. On a une grande montée de Rassemblement National en France, on l'a vu lors des dernières élections. Est-ce qu'il est à craindre, finalement, que demain, on ait un sursaut de populisme en France, comme dans certains pays européens, d'ailleurs?
Généralement, ce qui se passe aux États-Unis préfigure ce qui arrive en Europe après. Donc, nous, on a un cap qui est là. On propose un programme, on propose une issue à la crise, et donc on appelle tous ceux qui le souhaitent à venir nous aider, et on a un programme prêt pour contrer l'extrême droite. Et l'alternative, ce n'est pas Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. On a montré lors des élections législatives avec le nouveau Front Populaire qu'on pouvait opposer une alternative à l'extrême droite. On a gagné ce premier tour, les élections législatives, on a eu le plus gros groupe à l'Assemblée nationale, à cause d'Emmanuel Macron qui a préféré choisir un Premier ministre issu du parti qui avait fait le moins bon score. On ne peut pas encore appliquer notre programme, mais si jamais il nous était permis de le faire, on apporterait des solutions qui feraient forcément reculer l'extrême droite.
Alors ça nous amène au budget, parce que vous parlez de Michel Barnier, donc qui a été nommé par Emmanuel Macron et qui a trouvé... il faut bien le dire, un état, enfin, en tout cas en ce qui concerne les finances, là la France est dans un état grave, il l'a dit lui-même. Il y a ce débat donc à l'Assemblée nationale autour du budget, débat qui dure, avec beaucoup d'amendements qui ont été déposés par la gauche en particulier. Alors quand je dis...
Le plus gros nombre d'amendements, ça a été par la majorité qui voulait perdre du temps.
Voilà, mais en tout cas, oui, on est d'accord, ça ralentit des débats. Mais la gauche a quand même, alors l'union de la gauche a quand même obtenu des résultats sur pas mal de points. Le dernier en date, c'est un recul du gouvernement. Alors là, c'est peut-être pas du fait de l'union de la gauche, mais sur les retraites, on sait qu'il y avait un moratoire, une forme de moratoire sur l'augmentation des retraites, la revalorisation des retraites, et là, finalement, bien toutes les pensions seraient revalorisées au 1er janvier de la moitié de l'inflation. Est-ce que, finalement, ça, c'est une bonne nouvelle?
Oui, c'est ça. Le gouvernement avait prévu de bloquer l'augmentation des pensions de retraite. C'était une mauvaise chose, on l'avait dénoncé à l'époque. Donc, bien sûr, je me satisfais qu'il ait enlevé ce blocage. Après, comme d'habitude, je me pose la question... quelle idée ils ont derrière. Je regrette le fait qu'on n'ait pas pu aborder la question, le volet dépenses du budget à l'Assemblée nationale à cause de la ministre en charge des relations avec le Parlement qui a envoyé directement le texte au Sénat. Donc je me méfie de ce qu'ils ont prévu de faire. On n'est pas à la première arnaque.
Alors, sur la forme, il y a aussi cette intervention de Laurent Wauquiez à la télévision qui a annoncé la mesure. Alors, ça fait un petit peu surprenant. On aurait pu imaginer que ça vienne du Premier ministre ou de parlementaires. Est-ce que ça vous surprend, la méthode ?
Bah, pas vraiment. C'est pas la première fois que Laurent Wauquiez nous surprend. Au moins, il y a une chose qui est claire avec lui, c'est qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Ça doit être le 26e candidat de droite peut-être à cette élection. Donc ils essayent de se démarquer, de prendre la lumière sur eux. Et ce qu'ils appellent le socle commun, c'est ça, c'est une compétition de chevaux de course pour l'élection présidentielle. Donc chacun essaye de se démarquer. Et nous, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt.
Je l'imagine. Avec un débat qui risque de se conclure par un vote, on peut imaginer après une navette parlementaire entre, toujours sur le budget évidemment, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pire, peut-être un 49-3. Est-ce que ce serait, je vais dire, presque tout ça pour ça, un 49-3 au bout de ces longues discussions? Et ça voudrait dire... là qu'on reprend le texte initial, c'est-à-dire tout le travail fait jusqu'à présent serait vain.
Il faut revenir, ça. Il y a eu un grand travail à l'Assemblée nationale sur les différents budgets qui a duré des jours et des jours. Et aujourd'hui, mardi, il y a le vote solennel sur la partie recettes du budget. Et donc, on va voir qui est-ce qui soutient le budget ou pas. Éric Coquerel, qui est président de la Commission des Finances, a dit que pour lui, le budget était NFP compatible. Parce que ce qui s'est passé, ce qu'on a vu durant les dernières semaines, c'est justement que le nouveau Front Populaire avait obtenu beaucoup de victoires et avait réussi à complètement transformer ce budget. J'ai les chiffres.
Vous êtes venu avec vos chiffres. J'ai les chiffres. Voilà.
Ici, je crois qu'on a réussi à obtenir plus de 75 milliards de recettes. Et on a réussi à équilibrer ce budget en prenant sur les grandes fortunes et sur les multinationales. Et Éric Coquerel a demandé justement au gouvernement, sur la version qu'il a envoyée au Sénat, de reprendre plusieurs des victoires qu'on avait obtenues. Et j'alerte sur ce qui va se passer. Si jamais le gouvernement vote par 49-3 déjà, on verra ce que fera le Front National. Est-ce qu'ils continueront à soutenir le gouvernement comme ils le font depuis le début, au détriment de ce qui pourrait vraiment changer la vie des gens? Et là, si jamais le gouvernement, après qu'on ait réussi à transformer le budget, passe en force, et en oubliant absolument tout ce qu'on a fait, parce que, comme vous l'avez dit, là, ils commencent à proposer des choses par l'intermédiaire de Laurent Wauquiez, mais ça n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale. On ne peut pas continuer à bafouer les droits du Parlement comme ça, sur des députés qui ont été élus par le peuple et qui représentent la souveraineté populaire.
Là encore, la méthode est surprenante.
Bien sûr, elle est navrante plutôt. Moi, je m'inquiète surtout sur les répercussions que ça aura, parce que... On entend les gens qui se disent ça sert plus à rien d'aller voter aux élections. Et si on élit des députés qui n'ont plus aucun pouvoir, et que même pour les macronistes, ils arrêtent d'aller à l'Assemblée nationale parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien d'y aller, parce que dans tous les cas, ce qui sera décidé là-bas, on n'en tiendra pas compte et on passera le budget par ordonnance.
Donc voilà, ça interroge aussi sur le fonctionnement institutionnel. On a beaucoup parlé d'ailleurs de crise institutionnelle. Là, on voit que ça fonctionne finalement. Et on a une France insoumise, permettez-moi le terme, plus calme qu'à une certaine époque.
Ah,
c'est notre méthode, là aussi.
C'est vous qui le dites. on a toujours fonctionné pareil. On a la chance d'avoir plusieurs postes à l'intérieur de l'Assemblée nationale dans lesquels on peut montrer le sérieux de notre travail. On a le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, la présidente de la Commission des...
Des lois,
Aurélie Trouvé.
Oui, je crois ça. Commission des lois. Alors là, vous me posez une colle.
Non, c'est pas grave. On a deux vice-présidentes qui montre le sérieux de notre travail et de notre programme qui est prêt. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes d'équipes de gouvernement qui commencent à se dessiner au fil du temps.
Et voilà, donc un fonctionnement plus serein, peut-être.
Vous savez, ça a souvent été des caricatures, donc... Je me demande pourquoi elles continuent pas à être reprises. J'étais à l'Assemblée il y a quelques temps, j'ai vu que le RN était très virulent. Et pourquoi on n'en entend pas parler?
On en parle, nous, ici, aussi. De tout ce qui se passe à l'Assemblée. On a aussi un contexte extrêmement difficile, c'est le contexte social aujourd'hui. On a vu ces licenciements annoncés chez Michelin, à Cholet ou encore à Vannes. On a un ministre, le ministre de l'Industrie, qui promet une catastrophe sociale avec quand même des chiffres qui donnent le vertige, on pourrait perdre 100 000 emplois dans l'industrie dans l'année qui vient. Là, c'est vraiment des nuages noirs qui s'accumulent sur l'actualité sociale. Est-ce que c'est très inquiétant, ce côté social, cette perte d'industrialisation qui va aboutir à beaucoup de pertes d'emplois? On pense au domaine automobile en particulier.
Oui, c'est ça. On parle de 180 plans sociaux et on dit plans sociaux, c'est ça, on enjolive la chose. Ce qui se passe, c'est que c'est 180 plans de licenciement. Et la situation est terne, mais pas pour tout le monde. Mmh. Par exemple, on prend l'entreprise Michelin. En 2023, un euro sur deux des bénéfices qu'elle a fait a été reversé directement aux actionnaires. Mmh. Donc, il y en a qui se gavent sur le dos de ceux qui produisent la richesse. C'est ça qui n'est plus supportable. Emmanuel Macron a creusé 1000 milliards de dettes, 300 milliards d'euros du budget de l'État et va directement en aide aux entreprises sans aucune contrepartie. On sait ce qu'il faut changer.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer justement? C'est le fait de pouvoir réindustrialiser, de pouvoir attirer des entreprises, de recréer de l'emploi, ce qu'on perd finalement avec des entreprises qui partent ailleurs dans d'autres pays pour gagner peut-être un petit peu en compétitivité.
On a une vision économique qui est complètement différente de celle qui justement a créé 1000 milliards de dettes. Si jamais vous investissez dans la consommation populaire, si jamais vous redistribuez les richesses, que vous augmentez les salaires, ça fera d'autant plus d'argent qui arrivera chez les gens qui ont besoin de ça pour vivre, qui iront directement le dépenser pour consommer. Et comme ça, on relancera l'économie. Et
un cercle vertueux, finalement.
C'est ça, un euro investi donne directement 1,03 € en cotisation après.
Alors, justement, ces plans sociaux annoncés, finalement, risquent là aussi d'alourdir la dette, parce que qui dit plans sociaux va dire plus de chômeurs, plus de personnes qui vont être demandeuses d'emploi. Là aussi, c'est une mauvaise méthode, on n'a pas pris le problème à la racine.
Bien sûr, et puis si en plus après on fait en sorte que les gens qui travaillent doivent travailler encore plus longtemps, c'est une vision économique qui est complètement archaïque, qui a toujours montré qu'elle ne faisait que créer plus de pauvreté, plus de misère, et c'est ça, il faut qu'on parle, on dit que c'est des plans sociaux, que c'est des chômeurs, c'est des vies qui vont être détruites, des gens qui avaient emprunté pour acheter une maison, qui tout d'un coup, parce qu'il y a aussi le fait que ces plans étaient prévus à l'avance, et que de façon très cynique, un matin, on leur a annoncé qu'ils allaient perdre leur emploi, alors que ces entreprises, elles sont riches, elles ont beaucoup d'argent.
Alors, avec aussi, pour le secteur automobile, la concurrence, on pense aux voitures chinoises, aux voitures électriques. Là aussi, il va falloir faire preuve à un moment de protectionnisme. Ça nous ramène quand même un petit peu aux États-Unis, où on a entendu un certain Donald Trump dire, voilà, l'Amérique doit retrouver sa splendeur, son âge d'or, et on va devoir se protéger. Alors, protéger les frontières, protéger l'industrie. Est-ce qu'il faut avoir un cheminement comparable en France, voire même en Europe?
Il y a deux visions du monde, soit une économie protectionniste ou le libre-échange. Donc nous, par exemple, on a une niche parlementaire le 28 novembre. Un de nos points principaux, ce sera la suppression des traités de libre-échange. Mais Trump propose un protectionnisme. Nous, ça n'a absolument rien à voir ce que nous proposons. Nous proposons un protectionnisme solidaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas tout produire et on discute d'État à État, dans le respect et à égal, pour savoir ce qu'on a besoin d'importer. Et ce qu'on peut produire nous-mêmes. Et bon, déjà, c'est un enjeu écologique aussi. Ça évite transférer tout sur la planète.
Mmh. Ça évite en fait d'acheminer avec des avions, par exemple, les besoins de l'autre bout du monde vers chez nous ou réciproquement.
Ça, et des choses de fou qui font le tour de la planète avant d'arriver, comme le jean que vous avez sûrement.
Oui, voilà, je vais pas regarder d'où il venait, pour être très franc avec vous. Néanmoins, aujourd'hui, on a l'impression que cette économie globalisée, mondialisée, passe aussi par les nouvelles technologies. On voit l'arrivée de l'IA aujourd'hui. Est-ce que sur ces nouvelles technologies, aussi, on a beaucoup parlé de fake news sur la présidentielle américaine, voire même
de fausses informations.
Voilà, de fausses informations pour parler français. On sait que l'IA est très utilisée par ces fabricants de fausses informations. Est-ce que là aussi, il va falloir, dans les années qui viennent, penser le travail, penser la société à travers le prisme de ces nouvelles technologies?
Bien sûr, mais c'est un peu comme tout. Beaucoup d'IA c'est mauvais. Un peu d'IA, ça peut être très utile, suivant comment on l'utilise. Et moi, je me demande pourquoi on n'a pas de géant français sur l'IA, justement.
Voilà, alors j'allais y venir justement pourquoi aujourd'hui on n'a pas lancé finalement un plan pour favoriser la recherche, la technologie. Voilà, on a de bons ingénieurs en France. Est-ce que ça peut faire partie d'un programme politique plus tard pour le nouveau Front Populaire, par exemple, ou pour LFI ?
Bien sûr, et on y revient sur la même chose. En fait, si vous rendez plus efficace, plus stratégique d'investir plutôt que de donner directement aux actionnaires, vous permettez plus d'investissement. Le problème, c'est qu'on a donné des milliards et des milliards aux grandes entreprises et qu'elles n'ont rien investi.
Mmh. Alors il y a toujours dans ce volet social aussi cette crise ouverte à la SNCF, alors, qui fait couler beaucoup d'encre à lait, beaucoup d'utilisateurs du train, d'usagers du train, parce que voilà, une grève se profile pour le mois de décembre. Alors on parle du 11 décembre, il y aura déjà un mouvement de grève un petit peu avant, une sorte de galop d'essai, si j'ose m'exprimer ainsi, une grève pour dénoncer le démantèlement de Fret SNCF, une des filiales de transport de marchandises de la SNCF. Est-ce qu'il fallait démanteler cette filiale ou est-ce qu'au contraire, il fallait travailler à la rendre plus performante ?
Alors déjà, on commence par dire que c'est des paniques qu'on voit souvent. À la rentrée, il y a toujours les mêmes polémiques sur les écrans plats. À Noël, c'est les polémiques sur le droit de grève. Le droit de grève est un droit constitutionnel.
Ça va embêter quand même quelques Français, faut bien le
bien
dire.
Bien sûr, mais moi je souhaite qu'il n'y ait pas de grève à Noël. Mais pour ça, vous avez le galop d'essai et puis vous avez l'ultimatum. Si le gouvernement cède avant le 11 décembre, tout le monde pourra partir à Noël en vacances pour rejoindre sa famille. Donc moi j'appelle ici et j'appelle le gouvernement à écouter les revendications des grévistes et j'appelle tous les Français à soutenir massivement ce mouvement de grève qui est moi je rappelle que la grève c'est toujours des journées de salaire en moins, c'est toujours un combat qui est mené et là c'est surtout sur ce sujet là c'est un sujet d'intérêt général parce que au moment où la crise climatique s'avance on parle du fret donc c'est les camions, enfin c'est les marchandises qui sont transférées d'une frontière à l'autre ou au sein de la France par camion, donc c'est autant de camions, enfin par train pardon, c'est autant de camions en moins sur les routes, et donc de pollution en moins, donc là c'est 30% des lignes qui seraient transférées au privé sur des lignes des infrastructures qui ont été payées par les Français. Je me demande encore, est-ce qu'on pourrait pas avoir une commission d'enquête peut-être sur ce qui se passe, quelle prise d'intérêt, je sais pas, mais
Là aussi, ça nous ramène au budget. Comment faire des économies, maintenir des services. On pense évidemment à l'hôpital, qui est la source de toutes les inquiétudes en France. Il y a d'autres services aussi. On pense aussi à la poste, hein, dans les bourgs ruraux, où souvent la poste ferme. Voilà. Là aussi, le ferroviaire, c'est la mobilité. Est-ce qu'il faut éviter une privatisation du ferroviaire ? Ou est-ce que, comme on entend certaines voix dire, finalement ce sera mieux, on aura plus d'investissements, moins de dépenses publiques ?
Non mais je vais peut-être vous surprendre Stéphane Hamon, le débat n'est même pas là. Nous proposons d'investir massivement dans ces infrastructures, dans les services publics. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Il a été grandement délaissé, tout le monde a vu ce qui se passait, tout le monde a vu ce service public proche de chez lui, les classes d'école qui fermaient, les services aux hôpitaux qui fermaient. Il faut le renforcer grandement et on a besoin, sinon on arrive au devant de crises qui vont être généralisées.
Je parlais tout à l'heure, enfin en commençant en tout cas, je disais que vous étiez co-animateur du groupe d'action du Pays de Paimpol. Vous êtes un jeune aussi en politique, vous êtes venu déjà plusieurs fois au micro de la matinale. Aujourd'hui les jeunes, quelle vision ils ont de ce qui se passe, alors, par exemple du vote du budget ou de comment on leur impose une politique qui n'est pas forcément en phase avec leurs attentes?
Ah, puis c'est pas fait pour faciliter les choses. Moi, je pense pas que beaucoup de jeunes comprennent ce qui est vraiment en train de se passer à l'Assemblée nationale. Parce que, bon, comme je vous disais, on vote et puis à la fin, toutes les victoires qu'on a eues, elles vont être bafouées par un 49-3 ou par ordonnance. Donc c'est assez difficile. Et puis quand. Ce qui est merveilleux, en fait, pendant les élections, c'est que c'est un moment de politisation énorme. On parle pas beaucoup de politique toute l'année, mais là, on est obligé de s'y intéresser. Et dans notre cas, pour les militants de gauche, pour les sympathisants de gauche, on espère que la société va se transformer et on y croit. Et bah c'est ça, c'est beaucoup de dégoût chez les gens. Et moi, j'appelle tout le monde à rester mobilisé parce que ce qui s'est passé pendant les élections législatives, surtout chez la jeunesse qui a grandement voté par Nouveau Front Populaire parce qu'elle avait des attentes, tout n'est pas retombé. On peut toujours faire autre chose. Notre projet est là et on continuera à se battre pour ça. Et donc j'appelle pour ça le Nouveau Front Populaire à rester soudé.
Voilà, on parlait en commençant de ce tweet de Marie Messmer. Ça peut être source de tension, de division au sein de cette union de la gauche, de ce Nouveau Front Populaire?
Bah, je sais pas si... Ce qui est une vraie source de division, c'est qu'il y a des gens au sein du Nouveau Front Populaire qui veulent la fin de ce Nouveau Front Populaire. Donc on a entendu... Bon, je ne vais pas citer de nom. On va dire qu'on a une aile droite du PS qui souhaite la fin de ce Nouveau Front Populaire. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il ne veut pas vraiment changer la vie des gens? Est-ce que le fait d'avoir une union à gauche, ce n'est pas la meilleure façon de prendre le pouvoir? Et donc pour ça, bah, on a un congrès du Parti Socialiste qu'on va voir avec beaucoup d'attention. On a vu le retour de François Hollande après avoir trahi lors de son mandat. Je me demande qu'est-ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il ne veut pas avant tout juste relancer sa carrière politique, ce qui serait désastreux pour les Français?
Voilà donc, là aussi, à surveiller de près, on peut le dire comme ça. Le danger, c'est la désillusion, finalement, de la jeune génération politique face à des projets qui n'avancent pas, à l'envie de tourner une page sociétale, là aussi. C'est ça le danger, la désillusion, qui pourrait peut-être ouvrir la porte aller au Rassemblement National, on y revient.
Bah, je parlais de tous ces électeurs qui avaient cru dans le Nouveau Front Populaire, dans cette possibilité de faire autre chose, dans ce combat aussi, parce qu'il y avait de la peur que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et moi, vous parlez de désillusion, mais j'invite tout le monde à ne pas faire confiance à 100% dans ceux qui se présentent pour défendre un programme. Et j'invite tout le monde à prendre part, plutôt au lieu de juste vous laisser convaincre, de prendre part justement à ces mouvements politiques qui défendent des idées, à ces combats dans les manifestations, aux élections, à vous battre pour ce en quoi vous croyez. C'est le meilleur moyen d'arriver après au bout, quoi.
Justement, le Rassemblement National rassemble aussi des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces jeunes qui vont vers le RN?
Bon, ça va être très simple. Vous vous trompez de combat. Le problème, c'est pas l'immigré. Le problème, c'est l'actionnaire. Le problème, c'est les multinationales. Voilà le problème.
Voilà les.
Et nous, on a des solutions.
Voilà, donc pour essayer de les convaincre.
Et au lieu de lire le nouveau livre de Bardella, vous perdez pas de temps et allez acheter plutôt des livres d'histoire et vous comprendrez qui est-ce qui brûlait les livres, par exemple.
Voilà, donc j'allais y venir, je vais vous demander si vous l'aviez lu finalement.
Non, j'ai pas prévu de le lire, je suis désolé, j'ai pas trop de temps à perdre, je suis assez occupé en ce moment.
On a beaucoup marqué LFI, et ce sera ma dernière question. On a souvent dit LFI sont des révolutionnaires, ils veulent tourner la page de la 5e République avec le chaos. Vous comprenez que ça puisse faire peur, que tout à coup on ait un espèce de rouleau compresseur comme ça qui arrive et qui... Voilà, qui casse un petit peu le ronron politique.
Mais non, on a même dit que la France insoumise, en proposant la destitution de Macron, était extrême. Donc en prenant des solutions qui sont présentes dans la Constitution pour mettre fin à un mandat qui fait du mal aux gens, on serait extrême. Je vais pas mentir, nous proposons un changement radical parce que la situation est une situation de détresse sociale pour des tas de gens. Et donc, nous proposons des situations radicales. Mais nous sommes partisans de la révolution citoyenne. Donc, notre vision des choses, c'est que par les bulletins de vote, nous arrivons à faire une transition. Et comment on appelle notre société? Je ne sais pas, une société de l'entraide. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons changer complètement le système.
Axel Gourmelin, militant insoumis, co-animateur du groupe d'action du Pays de Paimpol, était avec nous ce matin pour parler politique. Merci infiniment d'avoir été en direct au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous. Bonne journée à tous ceux qui m'écoutent.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.